Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tout le monde. Alors, on va ouvrir notre Bible, lire un texte que vous connaissez, hein, vous l'avez certainement lu à plusieurs reprises, ou peut-être même médité et l'avoir entendu avec d'autres prédicateurs, c'est possible. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38. Alors, donc, je rappelle, Ésaïe, chapitre 38, quelques versets se présentent à nous et je voudrais les commenter. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots « Va ». Et dit à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, et voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée, je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. J'ai l'habitude de donner toujours un titre au message, ça nous permet de les retrouver et puis de donner la pensée principale. Et il m'est venu cette pensée que je voudrais vous livrer. C'est tout simplement « Requiem pour un roi ». Et nous allons rentrer dans le détail parce que je pense que c'est important de citer ce miracle de Dieu. Un requiem, je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce que c'est tout simplement, la définition, c'est une partie de culte ou de cérémonie religieuse mise en musique et chantée pour célébrer un défunt. Et un défunt, dans le cas qui nous intéresse, c'est tout simplement un roi. Vous avez certainement entendu ou peut-être écouté des requiem de Mozart et puis de d'autres, hein, des fameux musiciens, compositeurs. Et nous savons que, quand je dis célèbre, c'est pas réservé au commun des mortels, hein, à moins qu'il y ait une demande qui soit faite de la part de la famille. Mais c'est véritablement quelque chose de très solennel, de très marquant, tout simplement. Donc je dis bien, c'est en musique, avec des chants, et vous avez certainement peut-être saisi à la télévision des services funèbres de rois, de présidents, hein, ou de personnalités. Hein. Vous savez que dans certains cas, je pense à Victor Hugo par exemple, quand il est mort, eh bien, il y avait 1 million de Parisiens et des gens qui venaient de toute la France. Vous vous rendez compte, 1 million, ça fait du monde, hein. La capitale était envahie, c'était quelque chose, et puis il y en a eu d'autres, hein, comme ça. Hein. Alors, quand c'est un grand personnage, moi je pense aussi au général de Gaulle, lui il a eu un enterrement familial très... Mais la France a voulu commémorer le grand homme que nous avions eu, et on connaissait, hein, son histoire. Hein. Eh bien, il y avait tous les présidents, finalement, qui pouvaient de la terre qui sont venus à Notre-Dame pour finalement, et bien là, il y avait un requiem, en effet, d'une grande profondeur et puis qui véritablement était très marqué. Alors voilà, je voulais justement donner ça. Et il y a quelque chose de particulier en ce qui concerne Requiem sur un défunt, hein, de toute façon. Mais nous allons voir comment Dieu est capable. Vous l'avez déjà vu, on l'a lu ensemble. Vous allez voir comment Dieu est capable de retourner les choses. Alors, ce n'est pas pour Ézéchias un requiem, parce que il était malade, on va en parler. Il avait d'après la Bible, il avait une sorte d'ulcère de cancer, et il allait mourir. Et nous voyons qu'à un moment donné, Dieu va intervenir pour lui donner une prolongation de vie conséquente. Et nous nous apercevons que, vous savez, quand les hommes disent « c'est fini », moi je voudrais vous dire ce matin que rien n'est fini, que tout continue avec le Seigneur. Dieu nous dit « ce n'est pas fini ». Et peut-être parmi vous, des gens qui sont passés peut-être par des douleurs ou des interventions chirurgicales où on a dit « mais il n'y a plus rien à faire, c'est fini, on ne peut rien faire ». Et ça se multiplie dans différentes situations, hein, que ce soit la santé, que ça touche notre famille, que ça touche, en effet, eh bien, tellement de choses dans notre vie d'homme. Et là, à un moment donné, Dieu intervient. Et je voudrais donner de l'espérance. Je voudrais apporter une consolation ce matin. Parce que c'est véritablement, la Bible en parle. Et Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. On n'en est pas encore au requiem. Hein? Et peut-être ça se changera en tédéum. Tédéum, c'est la joie, c'est le contraire. Ouais, c'est la joie. Ce sont des expressions religieuses, en effet, latines. Alors, nous avons saisi un texte, on en verra un autre. On verra finalement la maladie du roi, moribond. Et nous allons voir après comment le roi Ézéchias, qui était un bon roi de Juda, faut bien le dire, eh bien, va véritablement exploser de louanges et d'adoration pour la grâce que Dieu lui a faite. Donc c'est un récit d'espérance pour tous les désespérés. Et un chrétien ne peut pas être désespéré. Il peut l'être temporairement, hein, d'une manière ou d'une autre, peut-être touché par cette douleur qu'est le désespoir, la dépression, mais à un moment donné, eh bien, soyons un peu comme Ézéchias. Gardons notre foi en Dieu, parce que je l'ai dit et je le répète, quand l'homme dit « c'est fini », Dieu nous dit « ça continue ». Parce que c'est la volonté de Dieu. On n'a aucune maîtrise de notre vie, hein. Il faut bien le considérer. Donc il était roi de Juda. C'est tout ce qui restait de ce peuple d'Israël. Et le texte nous dit qu'il était malade, et c'était une maladie sans espoir. Oui, sans espoir. Il n'y avait rien à attendre, finalement, d'autre. Il nous est rappelé que le roi fut malade jusqu'à la mort. Il y a des maladies qui sont, finalement, eh bien là, temporaires, parce que Dieu ou la vie, finalement, prend le dessus. Donc, malade jusqu'à la mort. Et par le prophète Ésaïe, Ézéchias, tout simplement, était prévenu que sa fin était prochaine par Ésaïe le prophète. Et nous voyons que c'est une vérité cruelle. C'est l'angoisse. Mourir, c'est une vérité cruelle. Et nous voyons que c'est soit l'angoisse. Et moi, je dis pour les chrétiens, même mourir, Paul le dit dans une de ses épîtres, ou alors la sérénité, la paix intérieure, la tranquillité de nos âmes, de nos pensées. Ça, c'est important de le souligner, l'un ou l'autre. Je pense que pour nous, nous avons une espérance. Mes frères et sœurs, vous ne seriez pas là ce matin. Hein? Vous avez une vie spirituelle. Et cette vie, vous savez d'où elle vient. Elle ne vient pas de vos parents parce que vous avez été élevé dans une ambiance ou un contexte religieux. On y est passé là aussi. Mais parce que, véritablement, vous avez fait une rencontre dans votre vie, à un moment ou un autre, qui a bouleversé votre existence. Et de la peur de la mort que vous aviez peut-être auparavant, eh bien, ça s'est changé dans un espoir et quelque chose de formidable en disant, eh bien, je suis sauvé. Et je suis sauvé, pas temporairement, mais je suis sauvé pour l'éternité. C'est important de le souligner ce matin. Ce sont des petites vérités, mais je pense que c'est important que nous puissions remettre un petit peu le pied à l'étrier si véritablement, eh bien, nous avons été un peu désarçonnés par toutes sortes de choses. Combien de temps me reste-t-il à vivre? C'est le psaume 90. Hein. Montre-moi la longueur de mes jours, Seigneur. Vaut mieux pas le savoir. Non, vaut mieux pas. Mais c'est quand même Moïse qui écrit ça, qui écrit, eh bien, dans ce psaume, hein, montre-moi les jours qui me restent tout simplement à vivre. Vous savez, jamais personne n'est vraiment prêt à partir. Quand je dis partir, c'est mourir, naturellement. Parce que la mort a un caractère particulier qui nous répugne. Ça, c'est vrai. Ça, c'est certain, mais c'est comme ça, c'est ainsi. Alors, jamais autant dans les épreuves que nous traversons, qui sont permises, qui sont quelque part, eh bien, la permissivité de Dieu sur notre vie, puisque c'est lui qui est notre créateur, eh bien, on peut dire que jamais autant dans l'épreuve, on a besoin de courage et de foi. Et c'est la foi qui nous donne le courage. Ouais, la foi. Si vous gardez la foi jusqu'au bout, eh bien, vous allez vivre des choses formidables. Malgré, finalement, les évidences. Malgré tout ce que vous pouvez savoir. Le verdict sur Ézéchias tombe comme quelque chose d'irréversible. Dieu dit à Ésaïe, va voir le roi, va voir Ézéchias et tu vas lui dire que, tout simplement ce que je vais lire maintenant. Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Ah. Moi ça me fait toujours penser à cette petite anecdote où... Quelquefois, on a dit, ou certains ont dit, eh bien voilà, une personne qui était malade, hein, eh bien, tu lis ta Bible et tu vas voir, tu vas trouver de l'espérance. Et la personne écoute celui qui lui a donné le conseil, et il choisit dans la Bible, en montant son doigt, sur un verset, pour s'encourager. Et sur ce verset, en dessous, il y avait marqué, « Prépare-toi parce que tu vas mourir ». C'est écrit dans la Bible. Hein. Voilà, ben, c'est là où on l'a vu. Alors, je peux vous dire que ça vous réconforte. Surtout ne jouez pas avec le hasard parce que ça c'est du hasard, mais nous il y a la providence de Dieu, c'est autre chose. Ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas l'ouvrir. L'homme ne meurt pas seulement suite à un accident. On entend toutes sortes de raisons qui font qu'un tel bien, a disparu, accident de la route, accident du travail, maladie, enfin toutes sortes de choses. Et puis tout ce qu'il peut y avoir autour finalement de la fragilité humaine, hein, pour disparaître. Mais c'est toujours le consentement de Dieu. Je voudrais le signaler, mes frères et sœurs, rien ne peut vous arriver tant que le Seigneur n'a pas donné finalement, eh bien, sa volonté. Ouais. Il vous a créé, vous avez grandi, vous êtes devenu un homme, vous êtes peut-être devenu, eh bien, un vieillard, mais on ne part pas comme ça. Il y en a un qui tue, hein. C'est le diable. C'est pour ça qu'il nous a dit, attendez, hein, méfiez-vous. Mais en tous les cas, Dieu a dit que tant qu'il y a finalement eh bien, son assentiment sur notre vie, et nous pouvons vivre très vieux comme ça. Hein. Vous savez, aujourd'hui, la vie elle, se prolonge quelquefois. On entend dire qu'il y a des gens de 105 ans, pardon, et qui sont encore là, etc., etc. Non, il y a un consentement divin. Et vous savez, c'est Job qui écrit ça parce que nous avons beaucoup de choses hein, qui touchent à notre précarité existentielle, à la vie, à la mort. Job nous dit, eh bien c'est Dieu qui coupe le fil de la vie, vous savez, comme un cordon. Et d'ailleurs, il l'appelle tout simplement le cordon d'argent. Vous connaissez, hein, le cordon d'argent. Et puis, Ézéchias, au verset 2, il est rappelé, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ah, les murs de notre vie, ceux qui sont là. Là, il y en a, hein, mais quelquefois, ce n'est pas seulement des murs hein, en parpaing ou en pierre, mais c'est d'autres murs que nous avons devant nous et qui nous angoissent, qui sont là parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Il n'y a pas d'horizon à notre vie. Les murs, ah oui. Alors, il s'est retourné contre le mur, probablement dans sa chambre, devant son lit ou quelque chose. Et il a fait une prière. quand on ne peut pas traverser les murs, eh bien on prie. Et c'est la prière qui ouvre les portes, qui ouvre les fenêtres, qui ouvre finalement les brèches pour que nous puissions aller plus loin. Souvenez-vous, si vous traversez des murs actuellement, si vous êtes face à un mur, d'impossibilité, priez, réfugiez-vous dans la prière. Et vous allez voir que Dieu va vous parler d'une manière ou d'une autre. Quand il va vous parler, vous ne savez pas. Comment il va vous parler, vous ne savez pas. Mais il va vous parler. Peut-être parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui sont devant un mur. Ils se disent, mais comment je vais faire? Comment? Je suis confronté à une situation que je n'ai jamais connue. Alors, ne cherchez pas des conseils de droite et de gauche parce que on est vraiment seul dans l'épreuve. C'est ce que l'on vit en fonction de ce que nous sommes, nous, notre tempérament, nos réactions, nos craintes, nos angoisses, notre dépression peut-être. Quand les hommes font face, tout simplement à un mur, ça les amène forcément à réfléchir. Hey. On est doté, pour nous, d'une intelligence, et on connaît bien là où nous sommes passés, notre histoire. Mais quelquefois, le mur est devant nous, et on se dit, mais comment je vais faire? Parce que c'est un chemin inconnu. Mais souvent, Dieu nous fait passer par des chemins inconnus, par des routes sur lesquelles nous n'avons jamais marché. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu le sait, lui, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et ça nous amène tout simplement à réfléchir, à penser à notre existence, parce que l'approche de la mort pousse finalement à trouver des solutions, ou à espérer des solutions, ou à désespérer finalement de rien avoir. Alors, c'est vrai que ça cogite, mais c'est comme ça, quand nous avons encore les facultés, cette possibilité de pouvoir faire marcher encore notre cerveau, notre faculté cérébrale. La fatalité donne soudainement plus de valeur à la vie. Eh oui, on se dit, mais j'ai vécu, je vis mal, je suis malade. Mais ça nous permet de faire un petit peu le bilan de notre vie. Il y a des gens qui le font tardivement et qui se repentent. Il y a des gens qui, quelque part, vont trouver des solutions, humainement parlant, je veux dire, et qui n'avaient pas pensé parce que, emportés par le flot de la vie, par l'océan qui nous emmène, qui nous roule de droite et de gauche et qui nous rend profondément malades. Et quelquefois, la gravité des choses, lesquelles peut-être jusqu'alors ont été négligées, à ce moment-là, ça prend véritablement la priorité. Ça devient quelque chose de primordial, tout simplement. Ainsi, ce que l'on considère comme secondaire, pendant des années, pendant des décennies peut-être, on s'est dit, on verra ça plus tard. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas penser au terme inéluctable, finalement, de notre existence. Alors à ce moment-là, nous voyons que ça va prendre une certaine valeur et Dieu va nous concentrer sur ça, en disant, mais il y a ceci. Tu n'as jamais pensé à cela. Tu n'as jamais voulu y penser. Tu as fait du déni, par exemple, et puis toutes sortes de choses. Tu as négligé ceci et cela. Alors, c'est vrai, ce qu'on considère comme secondaire, va prendre encore une première place, quelque chose qui était resté derrière nous, tout simplement, un sens nouveau, parce que, comme dit Ézéchiel, je vais mourir. Vous savez, ça doit être terrible, quand même. C'est terrible pour tous les hommes. Mais quand on est un roi, quand on a un royaume, ce qui n'est pas votre cas, je suppose, peut-être vous allez devenir président de la République, vous y pensez à ça, peut-être, comme monsieur certains qui pensaient à devenir président quand il se rasait. Je n'ajoute pas plus davantage. Et Ézéchias, lui, à ce moment-là, va dire, mais je vais vous nourrir. Vous savez, le déni nous fait fuir la vérité. C'est pas dans le déni qu'il faut se réfugier, en disant, je ne veux pas y penser. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la solution. Et nous prive de la véritable solution, parce que la véritable solution, ce n'est pas vous qui l'avez, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui, en effet, connaît ça. Alors, on se surprend, tout simplement, à peser les actions de notre pensée. Mon histoire, j'ai fait telle et telle faute. Il est peut-être plus l'heure, finalement, de dire, mais je vais recommencer. Non, c'est fini. l'histoire d'hier, hein, pendant toutes ces années, là maintenant, c'est terminé. Tout ce que nous aurions pu, tout ce que nous aurions dû faire, toutes les occasions ratées, je parle de la globalité finalement d'une vie, ce qui serait à refaire à travers peut-être une période de remords, une période de regrets, sont fixés et scellés à tout jamais. Vous ne reviendrez pas et nous ne reviendrons pas à ce que nous avons été lorsque nous étions adolescents, lorsque nous étions finalement dans la vie humaine, en pleine épanouissement dans toutes sortes de choses, les bonnes et les mauvaises, hein, tout simplement. Alors, il faut bien se dire qu'on écrit, oui, parce que la vie, c'est une écriture, c'est écrire quelque part. Hein. On écrit notre vie avec une encre qui ne s'efface jamais. C'est inscrit, c'est écrit. Voilà, c'est scellé. Alors comment faire? Et surtout que ce moment pathétique de dire, eh bien, comme Ézéchias le dit, je vais mourir, qu'est-ce que l'on peut faire? Un roi peut faire beaucoup de choses. Hein. Il a certainement fait beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises. Peut-être a-t-il prononcé des condamnations, peut-être à mort, hein, je ne sais pas. Et d'une manière injuste, et puis toutes sortes de choses. Bon, notre petite vie à nous, elle est quand même assez limitée, mais le péché, c'est le péché, de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors, il faut bien se dire que notre vie, on l'écrit avec de l'encre, quelque part, et c'est nous qui l'écrivons, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Lorsqu'on est face au mur de l'évidence, voilà, c'est ça. Et c'est là où on peut se dire, mais j'aurais dû, mais je n'ai pas voulu. J'ai négligé, j'ai rejeté, et de quelle manière? Alors à ce moment-là, eh bien, vous savez, c'est comme le roi des Mèdes et des Perses, là, à un moment donné, descendant de Nebuchadnezzar, il voit un mur, et il y a marqué, compté, arrêté, vous connaissez l'écriture de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais peu importe, et moi je pense que quelque part il y a ça aussi, hein, le mur de l'évidence, à travers nos échecs, nos erreurs, et vous savez, il est dit il y a une belle parole qui se trouve, je pense, dans les psaumes. Il est dit ceci, « Au jour du bonheur, réjouis-toi, mes frères et sœurs. Vivez la vie aussi avec la joie de Dieu dans votre cœur. Oui. » Ne jouez pas au plus, je ne sais pas moi, de vous enfermer dans une certaine tristesse parce que ça fait sérieux. Non, c'est pas sérieux. Hein. Mais « Au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, au jour où les vents soufflent dans le mauvais sens, eh bien là, réfléchis. » Et vous savez, Dieu nous donnera, et nous donne toujours, un moment de faire le bilan avec notre propre vie. Ouais, ça c'est une vérité aussi. On pourrait l'appeler le mur des interrogations. Ouais, quand on a encore la faculté cérébrale de pouvoir le faire, naturellement. Hein. Toute l'impossibilité, toutes nos impuissances devant la réalité du mal va paralyser Ézéchias à un moment donné, jusqu'au moment où il va entendre la parole de Dieu qui va véritablement être la lumière jaillissante à ce moment-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'on peut dire, nous, dans notre société, qui est une société quand même avancée? On n'est pas autant d'Ézéchias qui vivait il y a à peu près, 2800 ans. Hein. Les choses n'étaient pas les mêmes, mais l'homme était toujours le même. Il y a encore le même aujourd'hui. Et peut-être encore pire que ce que ça pouvait être. Hein, je ne sais pas. Enfin, pour nous amener finalement à regarder deux niveaux, soit la science médicale d'aujourd'hui, et moi je bénis le Seigneur qu'il ait donné des hommes capables de réfléchir, de porter avec compassion les misères pour enrayer ce fléau qui peut y avoir de la mort et de la maladie, de toutes ces choses qui sont terribles dans notre monde. Alors la science médicale, moi je vous dis franchement, et je le partage avec tous ceux qui quelquefois ont connu des maladies graves, vous savez, je pense que certains d'entre nous, et j'avais fait un message il y a 6-7 ans, vous savez, surtout simplement, Dieu m'a laissé vivre, après avoir passé finalement eh bien, cette tempête de plusieurs pathologies que j'ai connues, et je me dis, mais Seigneur, je devais peut-être encore avoir du temps, finalement, pour prêcher l'Évangile, pour être encore dans l'Église. Parce qu'il y a peut-être encore un travail à faire. Eh oui. Et c'est pour ça que je parle ce matin. Et vous savez, quelquefois, on se dit... Moi, quand j'ai vu mon cancérologue, il m'a dit... et pas à un seul endroit. Alors, c'est quand même quelque chose. Alors, bon, ben là, c'est pour ça que... Maintenant, après 90 ans que je vais avoir, je suis encore avec vous. Alors, priez, hein, j'ai dit 130 ans tout à l'heure, ou 150 ans. Vous voyez, bien sûr, donnez-moi un petit coup de main quand même. Eh oui, alors l'impossibilité, l'impuissance devant ces réalités, la science, aujourd'hui médicale, peut nous inspirer confiance. Et c'est vrai qu'il ne faut pas dénier les hommes. Il y a des gens qui sont bienveillants, il y a des gens qui ont des capacités, il y a des gens qui sont, on pourrait dire, des artistes pour aider les autres. Ça, c'est ça. Et nous rassurer le malade, malgré son savoir que nous pouvons connaître aujourd'hui, parce que nous sommes informés, hein. Vous savez, si vous regardez sur Internet, vous avez toutes les maladies. Et puis, finalement, eh bien, vous savez ce qu'il en est. Dans le temps, on ne parlait pas. Et puis, alors, il fallait voir la médecine, comment elle était. Hein. Vous étiez complètement en faiblesse, on vous faisait une saignée. Et là, vous alliez directement où vous ne vouliez pas aller, tout simplement. Ézéchiel savait bien tout ça pour son temps. Que les hommes de la médecine et cette médecine avec ses succès momentanés, par rapport sur la loi, la mort, mais nous savons que tout ce que les hommes peuvent faire sont limités, et ils sont aussi dans l'incapacité de faire des miracles. Et c'est le miracle que nous allons voir maintenant. Ce n'est pas Isaïe qui l'a fait, hein, le miracle. Ce n'est pas n'importe qui de son royaume, Ézéchias, qui ont fait les hommes de son temps, qui ont fait les miracles. Non, c'est Dieu. Ça ne vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. Ça, il faut savoir. Pour Ézéchias, il n'y avait pour lui ni médecin, ni remède. Vous prenez des médicaments, mes frères et sœurs? Ouais, il y en a qui en prennent un ou deux par jour, mais moi j'ai connu des gens qui en prenaient jusqu'à 20. Hein. Gourmandise du bonbon. Surtout quand c'est amer. Voilà. Ouais. Alors il n'y avait rien pour Ézéchiel dans son temps. Devant ce mur redoutable, parce qu'on parle toujours de mur, même les plus astucieux ou les plus optimistes, même des chrétiens, doivent s'incliner devant l'évidence. Il n'y a rien à faire. Le mur. Quelquefois, c'est des murs de forteresse. Hein. C'est terrible. Je vais un peu plus loin. Ézéchias comprend la gravité de son mal, puisqu'on vient de lui dire, et c'est pas n'importe qui, c'est un prophète qui vient le voir, de la part de Dieu. Et inutile de chercher des refuges dans, eh bien, d'illusoires secours. Aujourd'hui, on touche à tout. Enfin, je ne parle pas pour les chrétiens, mais on touche à l'occultisme, on touche à toutes sortes de choses. On veut savoir l'avenir, on veut savoir ce qui pourrait être fait. On fait le tour du monde pour trouver une solution. Ça, ce sont des aides illusoires qui ne servent à rien. Ainsi, nous voyons que le roi Ézéchias n'essaie plus d'appeler les solutions des humains, et c'est vers Dieu, face à son mur, qu'il se tourne résolument. Et là, il va se passer quelque chose et on en arrive à la partie vraiment extraordinaire, l'extraordinaire de Dieu. La souffrance produit deux effets opposés chez les hommes. Soit la révolte qui mène au désespoir et qui renforce l'incrédulité en disant « Qu'est-ce que vous voulez que je me tourne vers Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ? Est-ce qu'il existe ? Et pourquoi fait-il ceci ? Pourquoi permet-il cela ?» Donc l'incrédulité et l'endurcissement qui amène le monde et qui est incroyant, eh bien, a une résignation mortifère. Et il va mourir. Les hommes meurent, finalement, sans espérance. Jésus est venu comme la lumière. Il est venu pour nous donner le sel d'une vie nouvelle. Il est venu pour nous dire tant et tant de choses. Et nous voyons que c'est l'un ou l'autre, soit la révolte, ou alors tout simplement l'acceptation paisible qui conduit à l'espérance, à l'espoir de l'intervention de Dieu. Quelquefois, il y a quelques petits frémissements. On se dit non, il y a quand même quelque chose. Ça vous est un frémissement ou tressaillement. On se dit oui, c'est vrai, je suis malade. Mais quelque part, j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais vraiment pas bien, de dire à un chrétien qui était passé par, une chrétienne en l'occurrence, qui était passé par vraiment plusieurs cancers. Et je lui ai dit, tu sais, les hommes soignent. Par ce chemin, j'y suis passé plusieurs fois. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, tu sais, moi, je crois que le mieux, et je suis resté ferme dans cela. Moi, je compte sur le protocole du Saint-Esprit pour faire quelque chose pour ma vie. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Le protocole du Saint-Esprit. Non seulement tu es avec moi dans ma douleur et dans mes souffrances, Seigneur, mais tu me dis dans ta parole que mon corps qui souffre, est véritablement le temple du Saint-Esprit. Alors tu n'es pas loin. Bien sûr qu'il n'est pas loin. Il n'est pas avec moi, il est en moi. Et je ne me prends pas pour Dieu. Vous en jugerez vous-même. Il y a un moment donné, devant le mur, il faut lâcher prise. Pas d'entêtement. Pas de vouloir rivaliser avec ceci et cela et de dire, bah oui, ceci et cela et, ce, et se donner toutes sortes de raisons. Le lâcher prise. Surtout quand il s'agit non pas seulement des problèmes physiques, mais des problèmes moraux. Vous savez que nous sommes dans une société où les gens sont de plus en plus malades, de leur âme, de leur cœur, dans leurs pensées, culpabilité, tout ce que vous voulez, hein, le lâcher prise. Moi je le dis souvent à certains d'entre vous, je dis mais lâche prise, arrête de te battre, tu es en train de t'épuiser et tu donnes des éléments à l'adversaire pour te faire couler. T'amener au fond. Car avec Dieu, rien, écoutez bien, rien n'est jamais définitif. Ouais. Et même si nous passons de l'autre côté, c'est plus le définitif, c'est l'éternité. Mais dans une autre dimension, où il n'y aura plus les pleurs, où il n'y aura plus la maladie, où il n'y aura plus la mort, où il n'y aura plus ça. Retrouver, finalement, et bien dans le livre de l'Apocalypse, c'est finalement la conclusion, dans le chapitre 21 ou 22. Tout ça n'existera plus. Il n'y aura plus les pleurs, il n'y aura plus tout ça. Alors, notre brave roi, il dira ceci dans sa prière. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et là, je pouvais vous dire que Ézéchias a été un des meilleurs rois de Juda. Vraiment. Il a fait des bêtises à la fin. Hein. C'est vrai. C'est ce qui l'a emmené définitivement, mais bon, il était vieux à ce moment-là. Mais ça ne rentre pas dans notre message ce matin, parce qu'on pourra en parler hein, de ce qui s'est passé avec les empires après. Mais toujours est-il que quand il dit à Dieu, « Eh bien, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je t'ai plu, Seigneur. » Et il avait l'agrément de son Dieu. Cette prière que nous venons de lire hein, implore et tout simplement, eh bien là, et il croit, il déclare qu'il croit, eh bien là, à la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Et j'ajoute le qualificatif, le Dieu Tout-Puissant. C'est encore autre chose. Je crois en Dieu, c'est une chose. Mais je crois dans mon Dieu Tout-Puissant, surtout quand j'en ai besoin, à cause de mes souffrances. Alors à ce moment-là, ça revêt finalement, eh bien, la souveraineté sur le bien, le mal, la vie, la mort et tout ça. Tout-Puissant. Quand bien même, Ézéchias plaide pour ses mérites. Mes frères et sœurs, ne tombez pas dans la faute parce que vous avez un besoin urgent de dire « Seigneur, tu me donnes parce que je mérite ». On ne mérite rien. C'est la grâce. Appuyez-vous sur cela. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Notre vie est un cadeau de Dieu. Bien que nous passions par, finalement, des chemins difficiles à vivre, hein, tout simplement. Oui. Et il dira, j'ai marché avec fidélité en faisant ce qui est bien. C'est vrai, mais ce n'est pas ça ce qui va changer les choses. Ce n'est pas parce que vous avez été un bon chrétien, une bonne chrétienne, que vous faites des prières, que vous lisez la Bible, etc. Et ça. Non, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est la grâce. Dieu nous dit bien, rien. Non, nous ne méritons rien, tout est grâce. Cependant, eh bien, après avoir été le regard contre son mur, en train de se poser mille questions. Après avoir prié de cette prière que nous avons lue, il a versé d'abondantes larmes. Il a pleuré. Un homme qui pleure ? Ben oui. Mais bien sûr. Et quelquefois, ça fait du bien de pleurer. Parce que nous sentons que nous sommes si malheureux. Oui. Il a versé d'abondantes larmes. Le roi prouve d'une profonde et sincère humiliation. Parce que ça passe par là. On sait que peut-être plus grand parce qu'on était roi, ce qui n'est pas notre cas, mais toujours est-il. Mais à un moment donné, il faut bien dire que je ne suis rien. Et ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Et il me garde, il me bénit. Faut-il qu'il y ait des drames de l'existence qui surviennent pour me faire courber la tête, capituler, abdiquer à quelque chose? C'est notre orgueil. Un orgueilleux ne dira jamais qu'il est orgueilleux. Il dira plutôt le contraire, je suis humble. Oui. Mais quelquefois nous portons un orgueil qui véritablement nous barre la route et nous met un mur devant nous. Et puis se repentir. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un revirement de situation. Puis la parole fut adressée à Ézéchias. Avouez que c'est une curieuse thérapie. Oui, la prière. Certains hausseront les épaules, non-croyants. Mais ils diront, la prière, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ben, on va le voir, de toute façon, à quoi ça sert. C'est vraiment le remède inattendu que Dieu a préparé pour rétablir le roi Ézéchias. Et cette prière et cette intervention de Dieu, elle est faite autant pour le cœur qui a besoin d'être racénéré, et autant pour notre corps, finalement, eh bien, qui, un corps moribond, pour lui redonner la vie. Deux citations pour comprendre que la guérison tient à la foi qui libère. Écoutez bien ça. Dieu envoya sa parole et il les guérit. Psaume 107. Ça, c'est une des plus belles paroles de l'Ancien Testament. Hein, il envoya sa parole et il les guérit. Pourquoi sa parole? Parce qu'elle est porteuse, finalement, eh bien, de cette dynamique, de cette puissance qui crée la foi dans nos cœurs. Et c'est avec la foi, c'est par la foi que Dieu, c'est notre foi qu'il va honorer et il va nous guérir. Il y a encore un passage que je voudrais lire. C'est du cœur que viennent, eh bien, tout simplement, les sources de la vie. Mais oui, n'oublions jamais le Seigneur dans cette affaire. Mettre un cœur en détresse, tout simplement, eh bien, c'est véritablement avoir un cœur ouvert, qui va s'ouvrir, qui va, eh bien, mettre de côté la détresse et qui va s'ouvrir, mais qui va s'ouvrir à quelque chose, aux promesses de Dieu. C'est toujours la parole. Il envoya sa parole et il les guérit. Et nous avons reçu les uns et les autres dans nos moments de difficulté, eh bien, un simple mot, une simple parole. Et nous l'avons saisi, nous l'avons gardé. Et c'est ce qui nous a fait passer l'obstacle. Et qui nous a libérés, tout simplement. Le résultat sera toujours une foi active et une foi réceptive. Dieu dit encore, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. C'est pas mal 15 années, hein? Ouais. Au début ça va, après à la fin tu commences à réfléchir encore. Parce qu'il faut mourir, tout simplement. Qui signifie, Dieu lui dit, d'une manière très simple, je te guéris, roi Ézéchias, je te guéris. Aussi Dieu donne un signe pour fortifier la foi d'Ézéchiel. Alors écoutez, c'est un petit peu particulier, hein. C'est vraiment déroutant. Et voici le signe auquel tu reconnaîtras que Dieu accomplira la parole qu'il a prononcée. Et qu'est-ce que c'est? De quoi est composé finalement, eh bien, ce signe? C'est une preuve surnaturelle, comme Dieu sait les donner, alors que c'est imprévisible, c'est quelque chose que nous n'avons pas fait. C'est à la fois inouï et insensé. C'est faire reculer la lumière du soleil sur les escaliers du temple, ou je ne sais pas, du palais quelque part. Hein. Alors, ça c'est marqué les degrés, mais c'est un escalier tout simplement. Et c'est une façon peut-être dans l'Antiquité de mesurer le temps qui passait, hein, quoi qu'il en soit. C'est faire reculer la lumière du soleil, parce que Dieu est omniprésent. Il est maître sur la terre, il est maître dans l'univers, il est maître dans l'infini. Il est créateur, c'est pour ça. Il est omnipotent, omniprésent sur l'univers, et cela, ça défie la raison. On a entendu des témoignages de guérison divine, ou de solutions inimaginables, insoupçonnées, à travers des choses que Dieu fait, on se dit, mais c'est pas possible, ça peut pas venir des hommes, ça. Ah oui, il y a des choses qu'on a vécues, ou qu'on a entendues en témoignage, en disant, mais c'est miraculeux, c'est surnaturel. Croyez au surnaturel, mes frères et sœurs, mais pas le surnaturel qui sent mauvais, hein. Vous comprenez ce que je dis? Ou le surnaturel, je veux dire, religieux. Hein, qui finalement, eh bien, tout ça, c'est des légendes. Non, le surnaturel qui vient de la Bible et qui nous est donné par les promesses que Dieu nous laisse. Ça, c'est autre chose. Le roi Ézéchiel est perdu, il est ruiné par sa maladie, et il ose encore croire que l'impossible reste possible en raison de son Dieu tout-puissant, de ce souverain Dieu. Il a cru et il a vu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs qui passaient par des moments, crois, demandez, mettez toute votre force dans la prière pour véritablement que Dieu développe votre foi et vous verrez de grandes choses. Ouais. Si tu crois, tu verras. Et Dieu donne cette pensée dans la fin de l'Ancien Testament, il dit ceci, « Mettez-moi à l'épreuve, dit Dieu, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses, la bénédiction en abondance. » Oui, les écluses, vous savez, il y en a ici. Hein. Et ça fait un jet, quelque chose d'impérieux. Eh bien, c'est ça. Ça vient d'en haut, et il veut envoyer une pluie de bénédiction sur nos vies. Les écluses des cieux, Seigneur. Envoie sur l'Église, envoie sur nos églises, ouvre les écluses pour que nous puissions voir tout à nouveau un souffle comme nous l'avons connu il y a une quarantaine d'années. Hein. Les guérisons divines, à travers des conversions extraordinaires, à travers des fêtes et des situations qui ont été résolues d'une manière, mais alors miraculeuse, quelquefois, eh bien, qui étonnent le monde. Et c'est comme ça que les gens aussi se convertissent. Ça leur donne envie, finalement, d'ouvrir les écluses des cieux. Et nous, ça nous donne envie d'ouvrir les écluses des cieux. Priez comme ça. Ouvre-nous les écluses des cieux sur ma vie, Seigneur. Ézéchias, excusez-moi, parce qu'ils se ressemblent tous les deux. Ézéchias a eu l'audace de croire, et Dieu lui répond, « J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. » Oui, les larmes. Comme dira David, je remplis mon outre de mes larmes. C'est de mes larmes. C'est pour vous dire que l'on peut pleurer. Et on peut pleurer devant Dieu, et Dieu va voir, finalement. Il le sait, il n'est pas indifférent, parce que c'est un Dieu d'amour et de compassion. J'ai vu tes larmes. Alors, il va pouvoir lui dire, mais j'ai entendu ta prière. Vous avez prié peut-être pour certaines choses. Dieu a entendu vos prières, il ne vous a pas répondu, mais il va vous répondre. Ne vous faites pas un scénario de la manière dont vous voulez qu'il vous réponde. Mais tout simplement, croyez qu'il va vous répondre. Ça peut être dans la journée, ça peut être dans la semaine, ça peut être finalement, eh bien là, dans l'année. Ça peut être quelquefois des années après. Moi, je l'ai vécu, hein, des années, Seigneur, en disant, mais tu réponds pas. Puis à un moment donné, eh bien voilà, ça se réalise. Et on n'est même plus conscient de ce qu'on avait demandé à ce moment-là. Mais la chose se fait, parce que moi j'ai grandi, parce qu'il a travaillé mon cœur pour que je puisse recevoir, et surtout quand on reçoit l'exaucement, il faut le garder après. C'est pour ça qu'il nous entraîne, quelquefois à travers la patience et toutes sortes de choses. Alors, nous avons finalement, et je vais terminer là-dessus, nous avons cette belle illustration, parce qu'il est dit ceci, écoutez bien que je repère mes versets, il est dit tout simplement cette parole, voilà. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et son rétablissement. Donc on est maintenant au point. Il a vécu l'expérience avec Dieu et maintenant il se rétablit. Ouais. Et il va dire ceci. Quand il va aller mieux, quand la maladie aura été véritablement évacuée, je disais, dit le roi, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Il devait être à peu près au milieu de la vie, hein. Je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi. Quand on vit dans un palais, ça fait mal au cœur quand même. Comme une tente de berger, c'est-à-dire comme un souffle de vent. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand. Qui me retrancherait de sa trame ? Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Et c'est là où il va, le changement. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je ? Il m'a répondu, Il m'a exaucé. Retenez cette parole, mes frères et sœurs. Il m'a entendu et il m'a exaucé. Vous avez prié depuis un certain temps. Conservez la mémoire de ce que vous avez demandé et vous le verrez s'accomplir. Ouais. Ne désespérez pas, mes frères et sœurs. Le Seigneur est là. Il est près de vous. Il est avec son peuple qui le prie. Et Dieu n'attend que nous soyons prêts à être exaucés, mais nous ne sommes pas toujours prêts à exaucer. À être exaucés. Le rétablissement d'Ézéchiel, Exéchias. Alors vous faites la rectification, hein, naturellement. Et c'est là où on voit que quand même je commence à vieillir. Hein. Voilà. Bon, alors, c'est un clin d'œil. Le rétablissement d'Ézéchias supposait l'intervention d'un homme de grande foi que l'on connaît sous le nom d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, que le roi devait reconnaître comme agent de Dieu pour obtenir une totale guérison. Mes frères et sœurs, on est venu comment? Par révélation directe? Un ange qui est descendu pour nous dire ceci et cela? Non. Ça passe par les hommes. Ouais. Ça passe par les hommes. Le témoignage de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, qui a eu compassion finalement de notre misère, et qui là, eh bien, a reçu quelque chose de la part de Dieu, et qui vient nous le dire. Ça s'appelle le témoignage. C'est autant vrai pour le salut, c'est autant vrai pour la guérison divine, c'est autant vrai pour tout le reste. Dieu se sert des hommes. Ne méprisez pas ceux qui viennent vous voir. Prophète ou non. Attention aux faux prophètes d'abord. Hein. Ça c'est... Mais c'est pourtant la vérité. Foi dans un homme qui délivre la parole divine. Parce que si cet homme vient nous parler pour nous donner la parole de Dieu, eh bien, s'il vient en nous donnant que c'est la parole de Dieu, que c'est un homme crédible, c'est un homme qui véritablement eh bien, a toutes les qualités d'un chrétien ou d'un croyant, alors à ce moment-là, il faut le croire, il faut que ça passe. Et ça peut être même un ancien adversaire que vous avez eu, en disant « je ne veux pas l'écouter celui-ci hein. ». Ben, si véritablement il a fait des pas nouveaux, et qu'il vient nous voir en disant « mais le Seigneur, moi ». Et ça va être double, double guérison, réconciliation avec lui, pardon, et puis également, eh bien, ce que Dieu nous a donné. Tout simplement, ce que Dieu nous a... Dans le Nouveau Testament, je finis, tout simplement, ce message de cette parole qui nous parvient, eh bien, se nomme l'Évangile. Tout simplement, se nomme l'Évangile de Jésus-Christ, qui est à la fois le libérateur, Jésus, libérateur d'un océan de désespoir. Et il est bien rappelé, ta foi t'a sauvé, nous dit l'Évangile. Ta foi t'a guéri, qu'il en soit fait selon ta foi. Vous avez remarqué, c'est pas l'homme. Le message de l'homme va créer la foi, mais ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, etc. À Ésaïe, Dieu dit, va et lui et dis-le lui. Ouais. Faut pas avoir peur du témoignage, mes frères et sœurs. Vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est malade et tout ça? Eh bien, si véritablement vous priez et que Dieu vous entrouvre la porte, faut aller le voir et faut lui dire, mais faut lui apporter la consolation dont il a besoin et l'espoir dont il a besoin. Le témoignage, il n'est pas seulement pour les gens du dehors. Hein. Nous, on est visé seulement pour les gens du dehors, mais ça peut être aussi dans l'Église. On peut faire du bien à travers une visite. On peut donner finalement l'encouragement. On en a besoin. Mais il ne faut pas qu'il doute. Il ne fallait pas qu'Ézéchias doute. Les miracles de Dieu sont dépouillés, je voudrais donner cette dernière pensée, ils sont dépouillés de formalisme religion, voire de superstition et autres simagrées, fabuleuses, légendaires, et pseudo-chrétiennes. Eh oui, c'est pas des bricolages comme on le voit actuellement, même dans le monde évangélique, où on voit des gens qui arrivent en disant « ben voilà, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, etc. » Attention, hein, faut faire attention parce qu'ils se déguisent souvent en anges de lumière. Mais ce sont des loups ravisseurs. Hein. Mais si vous connaissez la Bible, vous n'allez pas tomber dans le piège. Hein. En conclusion, Job nous dit « Mais s'il trouve pour lui » et c'est ce qui s'est passé avec Ésaïe qui reçoit le message de Dieu pour le roi « S'il se trouve pour lui un ange intercesseur » il n'y en a qu'un, il est unique, hein, vous connaissez son nom « qui annonce à l'homme la voie avec un E et la voie avec un X hein, » qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et lui dit, délivre-le, car je l'ai trouvé, car j'ai trouvé pour lui une rançon. La rançon, elle était payée par qui? C'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous dit l'apôtre Pierre ou Jacques, je ne me souviens plus. Parce que ce message porte le nom de Jésus-Christ, la signature, eh bien c'est la signature de Jésus, car il n'y a aucun autre par lequel nous devions être guéris, nous devions être sauvés. Que Dieu nous bénisse. Et moi je vous encourage, mes frères, vous traversez des moments difficiles, quels qu'ils soient, quelle que soit la nature, mais croyez que quand on voit, eh bien, il n'a pas eu droit à son requiem, hein. Il a vécu 15 ans de plus, et je pense que c'est une bonne leçon pour chacun d'entre nous, pour espérer et lui faire confiance à notre Dieu. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir parce que tu es merveilleux, Jésus. Chacun d'entre nous, ne serait-ce à commencer par notre conversion, par le premier appel que nous avons entendu, nous avons discerné qu'il y avait la voix de notre Dieu qui voulait que nous soyons son fils, sa fille, que nous soyons enfants de Dieu. Eh bien, Seigneur, notre cheminement dans la vie, dans notre existence, a été quelquefois périlleux. Il a été quelquefois mouvementé, autant dans notre corps, autant dans notre âme, disputé par l'ennemi. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu as été véritablement celui que, d'une mort probable, d'un dépérissement probable, de quelque chose qui allait véritablement, alors que nous étions moribonds, tout simplement, sous différentes natures de choses. Eh bien, Seigneur, tu es venu et tu nous as parlé. Tu nous envoyais peut-être un homme, tu nous envoyais des hommes qui véritablement, eh bien, nous ont parlé de toi et qui nous ont donné la foi, qui nous ont donné le courage. Ils nous ont aimés de compassion comme les compassions de Christ. Et puis à un moment donné, eh bien, tu nous as rétablis à l'existence, à la vie. Seigneur, moi je te prie particulièrement pour mes frères, mes sœurs, quels qu'ils soient jeunes, qu'ils soient en effet dans le grand âge, qu'ils soient, Seigneur, tout simplement dans la vie. Eh bien, Seigneur, visite-les par ta parole, parce que la parole est pleine de promesses bienfaisantes, et fortifie notre foi à chacun, et bénis-les, et que bientôt nous puissions nous retrouver, en effet, et entendre leur témoignage en disant, eh bien, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci, mon Sauveur. Merci, Jésus. Bénis ton peuple. Amen.